Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 7e épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et puis ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir un invité qui me tient vraiment à cœur de recevoir et puis c'est quelqu'un qui a un parcours vraiment incroyable. Vous voulez être inspiré, vous avez besoin d'inspiration dans ces temps difficiles. Nous vivons des temps de pandémie qui n'est pas évident, j'en suis tout à fait au courant, mais c'est justement le but du podcast, vous changer les idées, vous divertir et puis vous inspirer. On a tout plein de parcours incroyables au Québec et puis je reçois un parcours aujourd'hui 100% made in Québec et bien fier de vous le présenter, nul autre que Patrick Côté, Pat Côté de Predator, pour ceux qui le connaissent par son surnom dans la UFC. Écoutez, c'est un combattant de la UFC, un ex-combattant en fait de la UFC qui a connu une très très belle carrière, une longue carrière également de plus de 13 ans. C'est quand même assez exceptionnel. Et puis, en fait, on a parlé naturellement de combats, d'arts martiaux mixtes comme plusieurs fans de sport que vous avez très hâte d'entendre parler, j'imagine. Mais la première demi-heure est vraiment axée sur, je dirais, assez philosophique. On a parlé de trucs très profonds avec Patrick au niveau familial, au niveau de sa vision de la vie, sa vision des choses qui se produisent en ce moment. Et puis, des conseils aussi, tu sais, des conseils de persévérance, de détermination pour les jeunes comme pour les moins jeunes. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable à écouter. Il y en a tellement à vous apprendre, à vous inspirer, Patrick. Et puis, c'est justement le but du pourquoi que je voulais le recevoir au podcast. On parle d'inspiration. Ben Patrick est vraiment l'incarnation même de l'inspiration. Écoute, tout ce qu'il a fait durant sa carrière, des combats qu'il n'était pas supposé avoir ou qu'il n'était pas supposé gagner, c'est vraiment, dans tous les sens du terme, un combattant et surtout un homme exceptionnel. Et puis, pour ceux qui ont envie d'en apprendre davantage sur Patrick Côté, vous pouvez vous procurer son livre chez les éditions Performance. Comme vous voyez ici, le livre « Tout est possible » pour les gens sur la vidéo sur YouTube présentement. Et puis, ceux qui sont sur le Zoom, comme je vous dis, vous pouvez vous procurer son livre « Tout est possible » dans tous les bons libraires du Québec. Et puis, je vous dis, c'est un livre qui est complet, là. Si vous avez la chance de pouvoir le lire davantage, là, c'est un livre qui est très complet. On parle naturellement de combat, un peu comme mon podcast, mais on aborde aussi différents trucs de la vie en général, vraiment des choses qui peuvent être inspirantes, mais aussi qui peuvent vous encourager dans vos projets, parce que chacun d'entre nous, on a des projets différents. Et puis, c'est important de pouvoir les réaliser afin d'avoir une vie bien accomplie. Et puis, Patrick nous permet vraiment d'être inspiré grâce à tout ça. Comme je disais, il y a des petites recettes aussi de nutrition pour ceux qui sont fans de nutrition ou qui recherchent un peu de motivation en ce moment. Il y en a à la fin du livre. C'est vraiment un livre qui est très complet. Je vous le suggère sincèrement. Alors, et également, c'est important de le dire que tous les bénéfices, les royautés du livre sont remis au Club des petits déjeuners du Québec. C'est encore une fois une preuve de tout le grand cœur que Patrick Côté ah, et puis, c'est pour ça, en fait, que je voulais vous partager son parcours. Également, dans le podcast, c'est sûr qu'on a abordé différents sujets. Patrick s'est livré comme je l'ai rarement vu. C'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de franc. C'est quelqu'un qui m'a dit, avant le podcast, écoute Antoine, on veut parler de n'importe quel sujet. Je te donne carte blanche, n'hésite pas. Et puis, je n'ai pas voulu trop rentrer dans le crunchy, mais sincèrement, on a appris des choses extrêmement surprenante sur la carrière de Patrick. Des révélations aussi qui sont touchantes parfois. Vraiment, c'est un podcast que j'ai adoré faire. Et puis, je vous dis, vous allez triper. Gens vous aimez la UFC ou non, vous allez triper, je vous garantis. Écoutez ça, ça mérite vraiment la peine d'être écouté. Et puis, je m'excuse pour les gens au niveau audio. Là, j'apprends, comme je vous disais, sur le tas au niveau audio. J'avais un micro. J'ai jamais eu de micro, en fait, auparavant. Et puis, il y a eu des petits problèmes au niveau technique. Là. Le son est un peu écho parfois. Mais écoutez, le contenu demeure excellent, là, intéressant, certainement. Donc, ça vaut la peine d'être écouté. Et puis, on s'améliore tranquillement, pas vite, dans le Made in Québec podcast. Et puis, je vous souhaite une excellente écoute pour ce 7e épisode du Made in Québec podcast en compagnie de Patrick de Predator Côté. Ben Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 7e épisode du Made in Québec podcast. Et puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un que j'ai un respect assez énorme pour lui. Quelqu'un qui a un cœur gros de même, puis un courage, une détermination, une persévérance. Bref, vous voulez être inspiré, c'est ça le but du podcast, c'est de recevoir du monde Made in Québec carrément, qui ont vraiment un parcours inspirant. Parce que je pense qu'à travers toute la situation difficile qu'on vit au Québec actuellement, on a besoin d'inspiration, on a besoin de rêver, on a besoin d'avoir vraiment des objectifs au bout de tout ça. Et puis, je reçois aujourd'hui Pat Côté, qui est vraiment un parcours incroyable. Pat Côté, c'est un combattant, un ex-combattant de la UFC, devenu aujourd'hui le porte-parole, la voix de la UFC au niveau canadien, autant anglophone que francophone. On le voit à travers notre téléviseur avec RDS, anciennement TVA Sport, et puis il fait également des conférences. Et en plus, il est auteur de cet excellent livre « Tout est possible ». Alors, c'est vraiment le parcours idéal pour le podcast. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter. Je vais faire un petit topo rapide de sa carrière, puis je vais le laisser l'expliquer davantage. Il va clairement mieux l'expliquer que moi. Écoute, Pat Côté, à 19 ans, il s'est enrôlé dans l'armée canadienne pour devenir un soldat carrément. Et puis, il a quitté l'armée par la suite à force d'avoir développé en fait des skills dans l'armée, qui a découvert les arts martiaux directement dans l'armée. Il a décidé de participer à l'Ultimate Fighter, qui est une émission de télé-réalité aux États-Unis, la 4e saison. Et puis, ça l'a vraiment propulsé carrément sa carrière. Par la suite, il a fait ses débuts en UFC en 2004 contre Tito Ortiz, qui a vraiment été un combat significatif pour sa carrière. Et puis, il a remporté 4 championnats mondiaux et nationaux à travers sa carrière. Et puis, c'est vraiment un parcours vraiment unique qu'on a. Très fier de le recevoir aujourd'hui. Et puis, merci d'être parmi nous, Patrick.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'inviter.
Écoute, c'est la moindre des choses. Alors, on va commencer par le début. Ça va être difficile, là, mais écoute, tu viens du coin de Rimouski.
Saint-Narcisse, oui, exact. Saint-Narcisse. Un petit village, oui. Un petit village de 900 habitants. Là, vraiment, c'est très, très petit. C'est un village qui est figé dans le temps. Il y a 5 rues, une église en plein milieu du village, un magasin général.
J'y étais cet été en plus. C'est pour moi des chutes du Grand Canyon de l'enfer, le phénomène.
Les portes de l'enfer.
Les portes de l'enfer, oui, c'est vraiment impressionnant.
Exact, c'est... c'est impressionnant qu'il y ait quelque chose qui est connu de ce village-là, sérieusement. Mais les portes de l'enfer, c'est très connu. Puis oui, c'est une réserve de la nature là, qu'on peut aller visiter, mais c'est de toute beauté. Mais écoute, c'est. Pour moi, c'est une grande fierté de venir de ce village-là, de représenter ce village-là. Puis, je m'en suis jamais caché que je venais de cette place-là. Pour moi, je suis vraiment fier. Puis, ma famille du côté de mon père est encore là-bas. Puis je le passe souvent. Puis, c'est ma famille. Puis, c'est mes racines. Puis, tu disais tantôt que je donne beaucoup. Puis, j'ai un grand cœur. Mais c'est beaucoup grâce à eux autres. C'est du monde qui ont le cœur sur la main. La porte est toujours ouverte chez eux. Puis, il n'y a personne qui barre le porte là-bas, puis tout le monde est le bienvenu, puis je pense que j'ai appris d'eux autres beaucoup là-dessus.
Ben écoute, tu fais bien de le mentionner parce que oui, c'est important d'être reconnaissant de ses racines. C'est peut-être ce que peu de gens qui deviennent connus à travers le temps, ils deviennent un peu moins terre à terre, puis oublient d'où ils viennent, mais toi, tu n'as jamais oublié ce côté-là, puis c'est tout à ton honneur. Écoute, j'ai lu ton livre, puis tu sais, je te remercie parce que c'est toi qui me l'as fait parvenir. Oups, désolé, on a un petit... on a un invité dans... l'avantage d'avoir un chat. Oui, en fait, j'ai bien lu ton livre qui « Tout est possible », que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes librairies du Québec ou simplement avec les éditions Performance, ceux que ça les intéresse de lire. Aussi, c'est important de le dire, tous les royautés carrément sont remis au Club des petits déjeuners du Québec. Encore une preuve du grand cœur que Pat Côté a. Et puis, en fait, c'est ça. En lisant un peu ton livre, j'ai vu et un peu ton documentaire aussi à RDS, pour ceux qui l'ont vu, on a pu voir la relation que tu avais particulière aussi avec ta mère qui t'a vraiment légué des valeurs incroyables de ce que j'ai cru comprendre. Vraiment, ça n'a pas été nécessairement facile dans ta jeunesse non plus. Je fais des conférences dans les carrefours jeunesse aussi, puis je rencontre des jeunes qui ne l'ont pas facile à tous les jours non plus. C'est une des raisons pourquoi je voulais te recevoir, un peu pour que tu les inspires à ne pas abandonner, à croire un peu en leur projet. Alors, parle-nous un peu de la relation que tu avais eue avec ta mère qui t'a vraiment inspiré pour la suite des choses.
Ben, moi, j'ai quitté Rimouski quand j'avais 4 ans avec ma mère seulement, puis c'est elle qui m'a élevé toute ma vie. Puis évidemment, on est arrivé à Sherbrooke, puis on vivait sous le seuil de la pauvreté. Puis je pense que si ceux qui ont vu mon documentaire ont vraiment compris par où qu'on a passé. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite à le voir. Pas parce que c'est mon documentaire, c'est juste parce que c'est tellement bien fait. C'est Pixcom qui a fait ça avec Simon Sachet, le réalisateur. Et
excellent.
Je m'attendais à quelque chose de bien, mais comme ça, écoute, ça a été... j'ai tombé sur le cul, tu sais, en bon québécois, sérieusement. Là. Ah, j'ai regardé ça, j'ai écouté 6-7 fois, puis à toutes les fois, j'ai pleuré. Pour vrai, c'est vraiment quelque chose qui me représente à 100%. Puis la partie où je parle de ma jeunesse, que je parle de ma mère, que j'explique aussi que on était devenu une équipe et non pas une famille parce que moi, j'étais un enfant unique. Puis il a fallu qu'on s'aide les deux énormément parce que ma mère a eu des problèmes de santé aussi. Puis il faut que je devienne quand même assez responsable très, très jeune. Mais on a vécu vraiment sous le seuil de la pauvreté très... C'est très, très dur, sauf que je n'ai jamais vraiment senti, parce que ma mère m'a tout le temps donné des bonnes valeurs, puis de travailler pour avoir ce que je voulais. Écoute, j'ai jamais rien manqué, mais j'ai tout le temps fait la moitié des choses. Donc, elle fournissait, exemple, l'inscription au soccer, elle fournissait la moitié, puis moi, il fallait que je travaille pour payer la moitié du reste. Puis c'était bien correct pour moi, puis ça m'a appris la valeur de l'argent, puis la valeur de l'importance de travailler pour avoir ce qu'on a, puis la gratitude que tu peux avoir quand tu travailles pour quelque chose, de ne pas tout avoir du cul dans les mains. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui me définit en étant personne, que moi, si j'ai rien à faire, je panique. J'ai plein de projets, puis je pense que ça vient d'être là aussi. Pas que j'ai une peur de retomber là-dedans, d'avoir un manque, mais plus de... Tu sais, toutes les fois que je payais mon inscription avec ma mère, c'est une fierté pour moi parce que j'avais travaillé pour. Puis... Je donne beaucoup de conférences, moi aussi, comme tu sais. Puis, je commence tout le temps en disant être né pour un petit pain, là, cette expression-là, ça me fait dresser le poil sur les bras parce que je pense que c'est une expression du monde qui ne veut pas avancer ou du monde qui veut juste accepter leur situation. Moi, je ne l'ai pas accepté. Nous, on ne l'a pas accepté, ma mère et moi. Puis, on n'a jamais dit qu'on était né pour un petit pain. Je venais d'un petit village de même pas 1000 habitants. C'est facile de dire que je ne mérite pas d'avoir les plus belles choses au monde parce que je suis né dans une place où c'est presque impossible de sortir. Bien, moi, je donne l'exemple que c'est possible puis que j'ai travaillé fort, pas plus qu'un autre. Je veux dire, bon, qui dit j'ai travaillé fort. Je ne me compare pas à avoir travaillé plus fort qu'un autre. J'ai travaillé pour ce que j'ai aujourd'hui et c'est pour ça que je suis super fier et que je n'ai pas peur de montrer ce que j'ai aujourd'hui. Il y en a qui vont dire peut-être que c'est de la vantardise, peut-être que je veux montrer ce que j'ai. Je ne le montre pas de cette façon-là. J'essaie d'en faire profiter avec le plus de monde possible, avec mes amis autour de moi parce que je suis fier de ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est ça aussi. Il faut, à un moment donné, à réaliser que tu travailles pour qu'est-ce que tu as aujourd'hui, puis c'est pas personne d'autre qui va te donner ça de tout cul dans les mains. Puis aujourd'hui, on a bien de la misère à se donner du crédit pour ce qu'on a accompli, puis on dit tout le temps merci à plein de monde à part de se remercier nous-mêmes. C'est dur ce discours-là parce qu'on a de l'air, on passe pour un égoïste, sauf que c'est important d'être égoïste dans la vie, c'est important d'être fier de ce qu'on a accompli, puis de se donner une tape dans le dos, puis de dire hey, sérieusement, là, c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Et je vais donner un exemple dans mes conférences. Je dis tout le temps l'exemple de les statuts Facebook. Quand ça va bien, tu dis merci la vie. Ouais. Pourquoi? Exact. Tu donnes le crédit à quelqu'un d'autre, à quelque chose qui est complètement abstrait. À place de prendre ta photo, tu es sur la plage, je vais dire, à place de dire merci la vie, ben non, j'ai travaillé fort pour être là. C'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai dépensé de l'argent pour aller là. Puis c'est de ma faute que je suis là. Au contraire, quand ça va pas bien, tu vas dire « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Tu vois, là, c'est plus de la faute de la vie, c'est rendu de ta faute si ça va pas bien. Fait que c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi dans mes conférences, qu'à un moment donné, il faut que tu te regardes et que tu te félicites toi-même et que tu sois fier de ce que tu as accompli.
Exactement, c'est tellement bien dit. Écoute, Patrick, on travaille pour la même agence PPS Canada qu'on salue également pour tout ce qui est conférences. Si vous avez des projets, faire un petit plug, là, profitez-en pour les appeler. Il y en a besoin pour vos futurs projets. Et puis, non, c'est ça en fait. Tes conférences, j'ai pas eu la chance d'en voir une, j'espère pouvoir prochainement, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment représentatif de ton livre aussi pour les gens qui peuvent pas aller voir la conférence. Prenez le temps de le lire. C'est pas juste un livre qu'on parle de UFC, qu'on parle de combat. C'est vraiment un livre sur une leçon de vie en général, vraiment une inspiration. C'est de réfléchir vraiment sur, c'est comme on parlait, c'est pourquoi tout le temps mettre la faute sur les autres ou Tu sais, il n'y a pas de chance dans la vie. On crée notre propre chance. Puis, je pense que Patrick a travaillé pour le réussir. Je pense que tu peux clairement être un exemple de détermination puis de persévérance. Comme tu dis, tu as eu un parcours qui n'était pas facile dans ta jeunesse, mais tu t'en es sorti, tu as appris de ça, puis tu t'es vraiment t'as steppé up carrément pour aller au bout de tes rêves. Il n'y a pas de chance là-dedans. C'est pas la vie qui a décidé que ah, j'allais te choisir toi pour être le champion du monde. Non, tu as fait en sorte que tu voulais le devenir. Fait que vraiment, c'est félicitations, Patrick. Puis, inspirez-vous de son parcours, sincèrement.
Bien, c'est un autre point aussi dans ma conférence, c'est que je dis que la chance, moi, je ne crois pas à ça. Tu as les opportunités que tu prends ou que tu ne prends pas, puis c'est ça qui va décider qu'est-ce qui va arriver après. Il y en a qui sont bien, puis ils ne sortent pas de leur zone de confort, puis rendus à 80 ans, ils sont assis, puis ils disent « Ah, j'aurais donc dû ». Moi, j'aime mieux dire « J'aurais donc pas dû », au moins, je sais qu'est-ce qui arrive. Puis, écoute, le livre, tu parles, c'est un livre que j'ai sorti en 2016. C'est pas une biographie. J'avais 36 ans dans ce temps-là. J'avais pas la prétention d'écrire une biographie à 36 ans. Il me reste encore bien des choses à vivre. Sauf que c'est un livre sur la motivation et la résilience. Ce qui me colle à la peau, vraiment, ce mot-là, résilience, parce que tu parlais de mon parcours de jeunesse. Ça n'a pas été facile, mais on a tout le temps réussi à s'en sortir. Bien, ça m'a beaucoup aidé, ça, quand j'ai eu des difficultés dans ma carrière professionnelle à l'UFC. J'ai eu une carrière en montagne russe, mais j'ai peut-être été capable de revenir au sommet, justement à cause de l'expérience que j'ai eue quand j'étais un petit peu plus jeune.
Exactement. Tu apprends aussi de tout ça à travers le temps. T'sais, on vit tous des épreuves, mais c'est ce qui fait en sorte, dans tous les gens qu'on côtoie, en fait, qui réussissent des exploits carrément exceptionnels, ben, tous ces gens-là ont traversé des embûches, puis c'est ça qui a forgé vraiment leur caractère pour la suite. Puis t'es encore une fois un exemple de tout ça. Écoute, je veux qu'on parle un peu de ce qui t'a mené à devenir, à t'enrôler en fait dans l'armée. C'était quoi ta mentalité à cette époque-là? Je ne sais pas si tu te souviens comment que Pat Côté était à 19 ans quand il a décidé que, regarde, c'est là que je m'enrôle.
Oui, bien 100%. Écoute, moi, j'ai tout le temps été un sportif, puis j'ai tout le temps joué dans l'élite. Je jouais pour l'équipe du Québec au soccer. J'ai été invité à l'équipe nationale aussi, junior, quand je jouais au soccer. J'ai jamais joué au hockey, mais j'ai joué au soccer beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, rendu... Puis, tu sais, j'étais bon à l'école. Au secondaire, j'étais vraiment bon. Sauf quand je t'arrive au cégep, c'est pas pareil. Hein? Il y a moins de monde qui te surveille. Ils disent, OK, dans 15 jours, il faut que tu me remettes une dissertation de 12 pages. Je dis, ben ouais, tu me laisses à moi-même. Là. Ouais. C'est sûr que ça n'arrivera pas. J'étais pas un grand fan de l'école, mais j'étais pas mauvais au secondaire parce que c'était de la logique. Moi, j'écoutais, puis c'était correct pour moi. Mais là, c'est sûr, rendu à 17, 18, 19 ans, je commençais à sortir, commençais à travailler dans les bars. On était trois cousins qui travaillaient dans un bar ultra populaire à Sherbrooke. Puis, écoute, ça a été trois années extraordinaires.
J'ai pas fait un peu de party,
ouais, beaucoup, beaucoup de party. Tu sais, j'ai travaillé là trois ans, j'ai pas fait une scène.
OK. Ça a vraiment.
On a eu vraiment, vraiment du fun. Puis, à un moment donné, à 19 ans, ben, je cherchais un peu quoi faire. Puis, t'sais, moi, je voulais quelque chose qui bouge, je voulais voyager. Puis, peut-être inconsciemment, il y avait un de mes cousins qui avait déjà été dans l'armée. Mon parrain avait déjà été dans l'armée également. Donc, peut-être inconsciemment, ça m'était rentré dans la tête. Mais je me cherchais quoi faire. Puis, j'ai décidé de m'enrôler dans l'infanterie. Le premier métier vraiment dans l'armée, là, c'est soldat de terre.
Premier soldat.
Donc, exact. Tu n'as pas besoin de grosses études pour rentrer en infanterie. Ouais. Sauf que je suis rentré en infanterie à 19 ans. Puis, écoute, ça m'a amené à une expérience de vie assez unique, mémorable, que j'étais allé chercher, puis je me suis servi toute ma carrière, toute ma vie, dans le fond. J'ai servi en Bosnie en 2002. Ça m'a amené à avoir une autre vision des choses, de l'appréciation de ce que j'ai chez moi. Puis, tu sais, je suis sorti en 2004, justement, pour essayer de faire carrière en arts martiaux mixtes. J'ai lancé un 25 cents des heures. Tantôt, je te disais, quand tu te sors de ta zone de confort, c'est là que tu vas voir ton plein potentiel. Bien, moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai pris une grosse chance. Mais je me suis dit, regarde, ça passe, ça casse, j'étais plus bien où ce que j'étais et je ne pouvais pas accepter de faire 20 ans dans l'armée si je n'étais pas bien. Donc, en 2004, j'ai décidé de vraiment lancer 25 cents dans les heures. J'ai brisé mon contrat puis tenté de faire une carrière là-dedans. Puis on sait que dans ce temps-là, 2004, c'était pas comme aujourd'hui. Là, c'était pas aussi populaire.
Même GSP ne l'était pas.
Exact. Puis, tu sais, je veux dire, ça n'a pas bien marché au début. J'ai perdu mes quatre premiers combats au UFC avant de gagner mon premier. Fait que ça a été extrêmement difficile, mon début de carrière. Mais j'avais un plan, puis ça aussi, dans mes conférences, j'en parle, puis ça, c'est ça le plus important. J'avais un plan, puis j'avais un plan A. J'avais pas de plan B. Le plan B, moi, dans ma tête, ça donne une chance d'échouer le plan A. Donc, tu mets pas toutes tes énergies sur ton plan A. Donc, pour moi, mon plan A, c'était de me battre pour le championnat du monde de l'UFC. Ça m'a pris 12 ans, mais j'y étais arrivé. Puis c'est comme un arbre, tu sais, j'aurais pu passer dans le milieu dans le tronc, sauf que j'ai pogné des nœuds menés dans le tronc. J'ai été obligé de prendre des branches à côté, mais toutes les branches s'en vont au sommet de toute façon. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris un long détour pour arriver au sommet à mon plan A, mais j'étais arrivé. Si je m'étais donné une porte de sortie pour avoir un plan B, écoute, j'aurais jamais atteint mon but de me battre pour le championnat du monde à l'UFC, puis d'atteindre mon rêve et le pinnacle de ma carrière, de tout athlète qui se bat en arts martiaux mixtes, c'est de se battre pour le championnat du monde de l'UFC.
Oui, puis il y a peu de Québécois qui peuvent se vanter d'en avoir arrivé là. En fait, là, on connaît les grands noms, toi avec GSP, Olivier Aubin-Mercier, tout ça, puis la relève aussi qui s'en vient, qu'on le souhaite.
Il y a David Loiseau aussi. David Loiseau,
oui, c'est vrai, on l'oublie.
Oui, on l'oublie. Pour vrai, on l'oublie trop souvent, lui. C'est des bons amis. Puis je trouve que c'est le premier Québécois qui a été à l'UFC. Puis c'est sûr que, tu sais, Georges, c'est Georges, là. Ouais. Georges, c'est
tout le monde le connaît.
Tout le monde le connaît. Puis on te demande souvent, là, tu sais, est-ce que ça t'a fait quelque chose d'avoir été dans l'ombre de Georges toute ta carrière?
Ah oui.
La réponse, absolument pas. Moi, je ne vais pas être un deuxième Georges St-Pierre. Je vais être le premier Patrick Côté. Je vais être la meilleure version de moi-même. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc, moi, pour moi, Georges, c'est un ami. C'est le meilleur athlète que j'ai jamais côtoyé de ma vie. C'est le meilleur combattant que j'ai vu de toute ma vie. Pour moi, c'est le meilleur, the greatest ever. Et je suis fier de le connaître. Je suis fier de m'avoir entraîné avec. Il m'a amené à un autre niveau dans ma carrière professionnelle, pas seulement en m'entraînant, mais ça a été un exemple à suivre. Je pense que c'est un exemple de parcours à suivre pour, comme un athlète assez incroyable si tu veux montrer à tes jeunes quoi faire pour être un bon athlète, un gentleman. Mais est-ce que ça m'a dérangé d'être dans son ombre? Absolument pas. Moi, je voulais être la meilleure version de moi-même. Je voulais être le premier Patrick Côté, puis ça, je l'ai réussi.
Écoute, merci pour la question, Pat. Ça paraît que tu es dans les médias parce que c'était une de mes questions. Mais encore mieux dit, vraiment, merci beaucoup. Mais non, sincèrement, c'est bien que tu en parles parce que, tu sais, ma génération, moi j'ai 27, puis tu sais, les gens de ma génération ont connu vraiment, tu sais, tes débuts, tu sais, 2004, je suis en sixième année, je vais pas te vieillir, là, mais...
je sais quel âge que j'ai, quand t'as beau.
C'est correct. Mais tu sais, je me rappelle de tes débuts quand même, clairement. David Loiseau, c'était peut-être un peu, tu sais... plus vieux un peu dans mon esprit. Puis on suivait un peu moins aussi la UFC au Québec à cette époque-là. Mais tu sais, pour moi, tu sais, c'est une des raisons pour laquelle ceux qui me connaissent savent que je fais un peu de portrait aussi de dessin. Puis j'avais fait le tien aussi en 2016. Puis tu sais, c'est ce qui nous a mis un peu en contact. Mais en fait, c'est quand j'ai décidé de le faire, c'est parce que pour moi, tu étais mon inspiration. Tu sais, c'est plus toi que j'ai suivi ta carrière sans rien enlever à GSP parce que c'est une légende, on va s'entendre là-dessus. Mais sincèrement, moi, je n'ai jamais été attiré vers les parcours parfaits. Ce que j'aimais de toi, justement, c'est que tu arrivais dans le ring, le meilleur, on parle de Anderson Silva ou quoi que ce soit, ça ne te fait pas peur. Tu vas y aller, tu vas foncer, tu vas quitte à te faire casser un tibia, tu vas continuer pareil sur une jambe. Puis c'est ça que je trouvais inspirant pour n'importe qui regardait ça, disait ce gars-là, peut-être pas le meilleur des talents, mais il est capable d'aller jusqu'à un championnat du monde parce qu'il a le cœur gros de main et qu'il n'arrêtera jamais. Fait que tu sais, c'est un peu. C'est un peu un parcours, tu sais, comme un peu à la Brendan Gallagher au hockey, qu'on dit, tu sais, le gars, il n'a clairement pas les meilleures mains du monde, mais il score 30 buts pareil, tu sais. C'était un peu... La comparaison est boiteuse, mais ça te ressemble.
Hey non, écoute, moi, je me compare tout le temps à Steve Bégin. Steve Bégin, qui est un bon ami à moi, tu sais, un grinder, un gars qui a du cœur, puis qui n'a pas le plus grand talent, mais il a joué dans la Ligue nationale de hockey pareil. Puis j'ai tout le temps dit, je n'étais pas un bon combattant. J'avais des skills, je me suis développé avec le temps. Mais j'étais loin d'être un très, très bon combattant. J'étais loin d'être avoir le calibre. Au niveau, je parle juste talent de battre au championnat du monde. Mais des fois, le talent, c'est pas tout. Tu parlais tantôt que c'était inspirant de me voir combattre. La raison pour ça, c'est que j'ai jamais eu peur d'échouer. Puis j'encourage le monde à échouer parce que ça veut dire que tu vas t'améliorer puis tu vas essayer d'avancer à place de faire du surplace. Ouais. Comment tu fais pour t'améliorer si tu échoues jamais? Si tu ne sais pas c'est quoi tes faiblesses? Donc pour moi, j'y allais all-in, puis je m'arrangeais pour être le plus près possible mentalement et physiquement. Puis ce soir-là, si ça ne marche pas, ben l'autre en avant de moi, il est meilleur que toi. Puis that's it, c'était sa soirée, c'était pas la mienne. C'est sûr que ça fait mal perdre, mais à un moment donné, c'est soit que... ça, c'est une phrase que je peux dire aujourd'hui qui me fâche moins. Mais quand tu es un athlète actif, cette phrase-là, tu ne veux pas l'entendre parce que c'est vraiment frustrant, mais c'est la réalité. C'est soit que tu gagnes ou tu apprends. C'est vraiment une phrase que tu ne veux pas entendre quand tu perds, mais c'est la réalité. Mais si tu n'apprends pas, ben c'est de ta faute. T'sais. Je veux dire, à un moment donné, moi, j'encourage à échouer. J'encourage à je veux pas que le monde se plante, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que si tu n'as pas peur d'échouer, c'est que tu vas essayer des choses puis que tu vas arrêter de te mettre un frein. Puis que ça ne veut pas dire que tu vas échouer. Mais si tu échoues, au moins, tu vas savoir sur quoi travailler puis tu vas devenir une meilleure personne ou tu vas développer des meilleures skills. Puis moi, je pense que c'est ça qui a l'idée ma carrière aussi. Puis j'ai pas eu peur de faire des choix ou de me sortir de ma zone de confort encore une fois. Puis Puis je pense que c'est pour ça que le monde... Tu sais, j'ai dit à la fin de mon documentaire, j'ai dit, tu sais, je veux pas rien enlever au monde qui se sont battus au championnat du monde, qui avait plus de skills que moi, qui sont peut-être plus spectaculaires. Mais je pense que le monde se sont raccrochés beaucoup plus à moi dans ce sport-là parce que j'ai montré que si tu peux, tu sais, tu veux. Si tu veux, tu peux, excuse. Ça veut dire que moi, je me suis battu avec mon cœur et non pas avec mon talent, puis ça m'a amené à mon combat de championnat du monde pareil. Donc, ça veut dire que, écoute, comme qui est sur la pochette de mon livre, tout est possible. Et pour moi, ça, c'était... J'ai trouvé tout de suite ce titre-là, puis je me suis dit, garde, c'est ça. C'est ça. Tu vas lire ça, puis tu vas finir de lire ce livre-là, tu vas dire, Kim, ce gars-là, il a réussi. Ça veut dire que moi, je suis capable aussi.
C'est exactement. Ben, c'est pour ça qu'on se rejoint. On a connecté peut-être là-dessus aussi, parce que moi, quand tu m'as envoyé ton livre, sur le coup, j'ai regardé, puis j'ai fait... Je pensais que c'était une biographie vraiment qui parlerait de ta carrière, la UFC. Que oui, c'est clair qu'on en parle un peu dans le livre, mais c'est une partie de toi, une grosse partie de toi. Mais ça reste que quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, attends un peu, ça fait longtemps que je cherchais un livre inspirant. Puis là, ben, je pense que je viens de le trouver là, parce que c'est un livre qui vraiment inspire n'importe qui dans n'importe quelle sphère. Et pour ceux que ça intéresse, il y a même des petites recettes à la fin. Là, fait que c'est un livre culinaire aussi.
On voulait rendre ça accessible à tout le monde. On voulait pas se prendre au sérieux, mais le message est sérieux quand même. Puis c'est ma façon de penser. Puis ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de penser. Tu n'es pas obligé de penser comme moi. Mais au bout de la ligne, ça se peut que si tu penses différemment, on arrive à la même place.
Ouais.
Puis, tu sais, 5 plus 5, ça fait 10, puis 6 plus 4, ça fait 10 aussi. Mais les deux, c'est pas la même façon d'arriver au sommet, mais c'est tu arrives quand même à la même place. Fait que, tu sais, tu vas lire ça, il y a peut-être des points qui ne vont pas te rejoindre, mais il y a peut-être qui vont te rejoindre là-dessus. Puis, tu sais, moi, c'est ma façon de penser, puis c'est la manière que je me suis rendu, que j'ai toujours retourné au sommet, je veux dire. Donc, ça veut dire que les embûches, je les ai eues, puis j'ai appris de ça, puis après ça, ben j'ai réussi à bien m'entourer, puis j'ai surtout contrôlé ce que j'étais capable de contrôler sans me faire trop, sans m'en faire trop avec ce que je ne pouvais pas contrôler. Puis à un moment donné, quand j'ai compris ça, ben, ça a été bien plus. Ça a été vraiment plus facile à vivre.
Ben écoute, c'est vrai. Tu as tellement bien dit ça. Je ne peux pas le résumer autrement. Là. Mais tu sais, ça me fait penser aussi quand tu parlais d'avoir la peur d'échouer ou de ne pas avoir peur d'échouer, en fait, quand tu rentres dans le ring dans ton cas. Ben, tu sais, c'est un peu. Ça fait partie du cheminement, qu'on le veuille ou non. Puis moi, le meilleur conseil que j'avais eu, c'était mon grand-père qui. Salut, il est encore vivant, il a 90 ans aujourd'hui. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui n'a vécu d'autre avant. Puis il m'avait dit, tu sais, quand j'ai voulu me lancer à mon propre compte, j'avais un peu peur, mais lui aussi, j'ai été entrepreneur. Puis il m'a dit, tu sais, le meilleur conseil que je vais te donner, monte les barreaux de l'échelle un à la fois. Parce que si tu essaies d'en monter 3-4 d'une shot, quand tu vas te planter, tu vas arriver vite en haut, mais quand tu vas te planter, ça va faire mal en chien. Fait que si tu montes un barreau à la fois, tu as bien moins de chances de te planter, puis tu vas apprendre tout au long de ce parcours-là. Puis c'est tellement, tu sais, on dit une parole de vieux sage, puis ça m'a resté dans la tête. Je me dis, c'est tellement vrai, tu sais, on a tellement peur d'échouer, surtout dans la génération qu'on vit aujourd'hui. Mm-hmm. Les apparences sont importantes. Faut pas que notre voisin voit qu'on est dans le trouble ou quoi que ce soit. Les réseaux sociaux, on veut tout le temps avoir de l'air, tu sais, je réussis tellement bien. Mm-hmm. C'est important de le dire quand ça va mal aussi. Puis, tu sais, c'est pas un échec. C'est juste une façon d'avancer puis d'apprendre de tout ça, là.
Exact. Puis je pense qu'on a tellement peur de ce que le monde va penser de nous autres aussi.
Ah, tellement.
Puis tu parlais des réseaux sociaux, des choses comme ça. On essaie tellement de plaire à du monde qui ne nous aime pas, à place de profiter du monde qui nous aime déjà.
Tellement.
Moi, j'ai décidé à un moment donné d'arrêter de m'en faire avec des commentaires sur ces réseaux sociaux, avec du monde qui ne m'aime pas. Je vais prendre soin de ceux qui m'aiment parce qu'ils sont déjà là. Parce que si je n'en prends pas soin, j'essaie de me faire aimer par du monde qui ne m'aime pas, que je ne connais pas, puis que, anyway, ça ne changera rien dans ma vie. Bien, je vais perdre ceux qui m'aiment déjà parce que je ne m'en suis pas pris soin.
Donc,
à un moment donné, faut pas que tu te perdes là-dedans non plus. Puis c'est facile de se perdre là-dedans quand tu deviens, un petit peu plus populaire, puis tu lis des choses, mais c'est pas juste une question d'être populaire, c'est une question de la vie de tous les jours. Le monde a tellement peur de ce que le monde va dire d'eux autres. En même temps, ça change rien dans ta vie, là. Je veux dire que le voisin trouve que t'as les cheveux longs ou que t'as l'air pouilleux, mais si tout est bien avec toi-même, tu sais. C'est pour ça que je te dis d'être égoïste des fois, dans la vie, c'est important. Parce que si t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec personne d'autre. Tu peux pas être un père et un mari à 100% donner le meilleur de moi-même si je ne suis pas bien avec ma propre personne. Donc, faut que tu t'occupes de toi en premier. Puis après ça, ce que le monde pense de toi, ça te passe 10 pieds par-dessus la tête.
C'est tellement bien dit. Tu sais, c'est ça qu'on oublie souvent, comme tu dis, de focusser sur les gens qui ne nous aiment pas. C'est normal, on le fait tout le temps. Même moi, quand je mets mes publications photographiques sur ma page, puis tu sais, j'ai du monde qui, je dirais, j'ai 99% qui a des bons commentaires, mais là, une personne qui t'écrit et qui te dit « Hey, t'as pas de talent, mon enfant de 2 ans n'aurait pris des meilleurs que moi, que toi. Tu sais que c'est des niaiseries, mais on dirait que ça t'affecte quand même. Puis, il ne faut tellement pas se laisser affecter par ça parce que focussons-nous sur le positif au lieu de focusser sur le négatif. C'est ce que je vous suggère. Puis, je pense que Pat, tu l'as fait tout au long de ta carrière puis tu le prouves encore avec ce que tu viens de dire. Fait que c'est vraiment de faire attention à ça puis de se marquer là-dedans.
Puis, tu sais, c'est ça, je donne beaucoup d'exemples sur ma vie professionnelle parce que, tu sais, le monde comprend plus facilement quand ils se mettent des images en tête, mais tu parlais de la pensée positive puis arrêter d'être négatif. Je donne cet exemple-là, puis le monde, ils comprennent. Même si tu n'as jamais regardé de combat, tu vas comprendre ce que je dis. C'est que, tu sais, moi, j'ai eu longtemps une faiblesse au niveau de la lutte. Ça veut dire que je ne voulais pas aller au sol. Quand je rentrais au corps à corps, eh bien, j'avais peur. Puis là, je disais, oh non, il ne faut pas que j'aille à terre, il ne faut pas que j'aille au sol, il ne faut pas qu'il m'amène au sol. Puis à un moment donné, j'ai décidé de switcher ma pensée, puis de dire, ah, je vais rester debout. C'est sûr que je reste debout. Bien, croyez-le ou pas, c'est pas parce que j'étais meilleur, mais juste la façon que j'ai pensé, bien, 90 % du temps, plus souvent, je restais debout et je me faisais moi amener au sol. Juste parce que j'avais pas la mentalité déjà d'être déjà à terre. J'étais debout puis j'allais rester debout. Tu sais, ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Si tu regarde, la pandémie aujourd'hui, là, le monde, là, il s'assoit puis il y en a beaucoup qui dépriment puis que oh, c'est plat. Bien, tu fais d'autres choses que tu n'as jamais faites ou prends le positif. Moi, là, tu sais, je passe du temps avec ma famille, avec ma fille de 3 ans. On joue avec à tous les jours. Tu sais, j'aurais pas pu passer ces moments-là qu'elle va se souvenir de toute sa vie, puis moi aussi, s'il n'y avait pas eu cette pandémie-là. C'est sûr qu'on aurait même mieux qu'il l'ait pas eu, mais regarde le positif. Je me suis acheté un cours d'espagnol. Whatever. Tu sais, je dis, j'ai du temps pour le faire. Non, mais j'ai du temps pour le faire. Puis je regarde ça, puis je me dis, regarde, tu trouves des affaires positives à la place parce que, anyway, tu peux pas contrôler la pandémie. Donc, tu contrôles ce que tu peux faire. Puis moi, cette phrase-là, contrôler le contrôlable, ça a changé ma vie complètement professionnelle et personnelle. Puis aujourd'hui, je l'applique à 200%, là. Ça passe des fois quasiment pour le je m'en foutisse, là. Mais écoute, moi, quand je me couche le soir, je dors. Puis je dors bien.
Ah, écoute, c'est drette ça. C'est de ne pas se coucher le soir, avoir de la difficulté à s'endormir. Puis tu sais, c'est normal qu'on vit du stress en ce moment. Je pense qu'on vit toute une situation qui n'est pas facile. On est très, très conscient de tout ça. Mais tu sais, c'est le but du podcast, en fait. J'ai décidé de le créer simplement pour mettre en valeur. Oui, je vais recevoir des entreprises ici et là. D'ailleurs, je pense que tu as ton gym encore, Pat?
C'est un complexe sportif, le Centre XPN, qui on est juste à côté des promenades de Saint-Bruno. C'est dans l'arrondissement Saint-Hubert, là, mais on est juste à côté des promenades de Saint-Bruno, c'est la rive sud à Montréal. Puis oui, ben là, c'est sûr qu'on est fermé, là, mais ça fait 2 ans qu'on est ouvert, puis ça va bien, là. Écoute, on est super contents. C'est un trip de boys qu'on a fait, on a ouvert ça pour être ensemble. Puis c'était quelque chose qu'on avait dans l'idée depuis longtemps. Puis écoute, c'est un autre de mes 10 000 projets qu'il y avait dans la tête. Puis écoute, ma femme, elle m'a dit, voyons, pourquoi tu pars ça? Parce que ça me tente, c'est tout. Et c'est comme ça. Puis aujourd'hui, ben regarde.
Ensemble aussi.
Le gym-là, ben, tu sais, je veux dire, faire de l'argent avec un complexe sportif, ça prend énormément de temps. Puis ça veut pas dire, tu sais, tu viendras pas millionnaire avec ça. Là. Ben, sauf que quand tu vois le côté positif de ça, j'ai peut-être pas fait une scène avec ce gym-là encore, mais ça m'a amené tellement d'autres opportunités à cause de ce gym-là. J'ai fait des shows de cuisine puis des shows de fit show. j'ai rencontré du monde à cause justement de ça qui m'ont amené d'autres choses. Fait, quand je regarde ce que j'ai fait depuis que j'ai ouvert ce centre-là, peut-être que j'ai pas fait une scène avec le centre, mais tout ce qui est les effets alentour de ça, ben c'est juste du positif. Là. Donc, tu sais, faut que tu fasses... Je vais faire mon poète, là. Il faut que tu fasses fleurir ce que tu as. Et pas juste rester avec les racines. C'est beau, wow. Ça.
Écoute, on va mettre ça dans vraiment le clip du podcast. Ça va être ça. Faire fleurir. Pat, le poète. Écoute, non, mais c'est bon. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est que, tu sais, le but du podcast, c'est vraiment inspirer les gens avec des parcours inspirants comme le tien. Mais c'est aussi de recevoir des entrepreneurs pour promouvoir l'achat local. Donc, tu faisais un peu la combinaison des deux. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment aussi de ne pas s'apitoyer sur son sort parce que j'étais tanné de voir de la déprime, j'étais tanné d'ouvrir les nouvelles, d'entendre le mot COVID, d'entendre de voir des masses bleues. Écoute, je comprends là, que c'est ça la réalité, mais c'est déprimant. Puis tu sais, de voir des gens inspirants comme toi, comme d'autres invités que j'ai reçus, écoute, ça fait du bien au moral, puis c'est vraiment ça que je veux faire parvenir aux gens. Puis écoute, merci encore une fois de pouvoir offrir tout ce beau parcours-là à nos auditeurs.
Ben, ça fait plaisir, puis t'as raison, c'est déprimant. Écoute, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est déprimant, c'est historique. Puis regarde, je pense qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable, là. C'est là, il faut prendre les mesures nécessaires de sécurité. Il faut pas, tu sais, il faut prendre ça au sérieux à 100%. Je vais dire que c'est exagéré ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mais encore une fois, quand tu fermes la télé, ben, tu sais, c'est à toi de faire ce que tu as le contrôle de faire ce que tu veux avec cette situation-là. Donc, soit tu t'assois, tu pleures et tu attends que le temps passe, ou soit tu t'arranges pour faire avancer quelque chose, un projet que tu as fait, construire une cabane à oiseaux, whatever. Tu sais, faire quelque chose de constructif à la place.
Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire, tu sais, que ce soit chez nous, comme tu dis, passer du temps avec nos proches. Tu sais, les gens là, sont tout le temps en train de se plaindre que la vie roule à 100 000 à l'heure, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne peuvent pas passer du temps avec leurs enfants parce qu'ils ont 80 heures par semaine à leur job. Mais là, vous n'avez rien à faire, vous êtes chez vous. Tu sais,
Puis là, mais ça encore, se plaint encore.
Ça se plaint encore. Tu sais, au lieu de tout le temps se plaindre, faites de quoi de constructif. Arrangez-vous pour réaliser un de vos rêves. Comme je disais dans un autre épisode, si vous rêvez d'écrire un livre et que vous n'avez jamais le temps de vous asseoir, vous avez le temps d'aller dehors dans le balançoire sur votre ordinateur, prenez le temps de réaliser chacun de vos rêves. Ça ne veut pas dire que je reçois quelqu'un de la UFC ou du baseball comme la semaine dernière, que ça va être nécessairement juste ça, votre inspiration. Une personne d'un autre domaine peut vous inspirer quand même à réaliser chacun de vos rêves respectifs puis de continuer dans cette branche-là.
Oui, puis je pense que c'est important de se trouver, tu fais l'idée par une passion. Trouve-toi quelque chose qui te passionne, puis investis-toi là-dedans. Puis ça va être bien plus facile de rester motivé. Ouais. Mais tu sais, c'est impossible qu'il n'y ait rien qui te passionne. Impossible qu'il n'y ait rien que tu aimes. Donc, trouve quelque chose que tu aimes. Tu sais, comme t'aimes la guitare, tu veux jouer de la guitare, mais tu as peur de ne pas être bon. Dis-toi bien que Jimi Hendrix, avant qu'il soit Jimi Hendrix, il était débutant. Il a commencé à quelque part. Tu comprends? Fait que maintenant, tous les experts ont été novices à un moment donné quand il a commencé. Fait que, tu sais, tu parlais tantôt des barreaux, des barreaux d'échelle. Ben, c'est exactement ça. Donc, arrêtez d'avoir peur d'échouer, encore une fois. Ça se peut que ça soit difficile de jouer de la guitare, là, si c'est ça que tu veux faire. Mais si tu veux le faire, c'est ça ta passion, bien vas-y, lance-toi là-dedans à 100%.
C'est tellement vrai. Puis tu sais, c'est justement les jeunes que j'ai dans mes conférences avec les Carrefour Jeunesse. C'est des jeunes qui... Moi, quand j'ai approché les Carrefour Jeunesse, on m'avait dit exactement ça. Les jeunes n'ont pas de passion, ils n'ont pas de but dans la vie, puis ils n'ont pas de motivation. Essaye de leur en donner un. Mais j'ai dit, moi, je ne suis pas là pour leur créer un but. Je ne suis pas là pour leur dire, soyez photographe ou soyez combattant UFC. C'est à eux de leur créer leur propre but. Ce que je lui dis, c'est simple, c'est que vous avez des passions. Chacun en a. J'ai jamais vu une personne dans la vie qui n'a pas une passion. C'est sûr et certain. Ça, l'affaire, c'est peut-être une question de confiance aussi. C'est peut-être, tu sais, tu te fais pas assez confiance, tu as peur d'échouer, tu as peur d'être poche dans ce que tu fais. Fait que tu le fais pas. Mais c'est quoi t'as à perdre au pire? Fais-le pour toi, fais-le pas pour les autres. Fais en sorte que ça te rende heureux. Si ça te rend heureux de jouer de la guitare, même si ça fausse, ça te rend heureux, oui ou non, ben fais-le. Tu sais, c'est de réaliser chacun, comme je disais, nos objectifs, c'est tout. Puis je pense que, comme tu dis, on a toute une passion rendue là.
Ben 100%. Puis tu sais, c'est une question de confiance, mais encore une fois, la confiance, ça va avec si tu es bien avec toi-même. Tu sais, si tu le fais pour toi-même ou tu le fais pour les autres. Fait que, tu sais, si tu fais quelque chose pour les autres, c'est pas ta passion.
Exactement. Ben écoute, c'est ce qui met fin à la chronique Persévérance, motivation et philosophie du Made in Québec podcast. Merci énormément. On va revenir dans le crunchy du sport un peu plus parce que sincèrement, je vais me faire lancer des rushs par tous les gens qui m'ont dit « Yes, t'en reçois pas de côté, pose-y telle question. » Je vais te lancer des questions du public. Fait que s'ils sont pas bonnes, ben ils sont pas de moi. Non, mais j'en ai une de mon meilleur ami, fait qu'elle n'a pas le choix d'être bonne. Il m'a demandé en fait, est-ce qu'il y a certaines relations que tu as en ce moment avec d'autres combattants actuels québécois dans la UFC? On pense à soit Ali Aubin-Mercier ou Marc-André Barriot ou Charles Jourdain. Est-ce que tu as encore certaines relations? Ils te demandent-tu des conseils parfois? C'est quoi que tu entretiens avec eux?
Oui, bien écoute, Charles Jourdain a joint les rangs de mon équipe, finalement. Présentement, il s'entraîne avec Brazilian Top Team, avec Fabio. Donc, je le voyais énormément, je le voyais souvent. Marc-André Barriot venait souvent au centre XPN s'entraîner avec nous. Il demandait beaucoup, beaucoup de conseils à Marc-André parce que Tu sais, perdu ses trois premiers combats à l'UFC, puis son parcours est un petit peu comme le mien. Exact. Puis encore une fois, puis c'est pas pour manquer de respect à Marc-André, puis j'ai déjà dit en pleine face, Marc-André, c'est pas le plus grand talent, mais si tu te fies à ce que moi j'ai vécu, écoute, tu peux, tu sais, si tu as confiance en tes moyens, puis tu veux y aller, bien, des fois, c'est juste un petit déclic, tu sais. Puis moi, ben quand j'ai eu ma première victoire à l'UFC, je suis parti sur une séquence de 5, puis j'ai un combat de championnat du monde. Fait que des fois, c'est plus juste un petit déclic.
Tu peux s'inspirer Olivier, sur toi facile.
Bien, facilement, puis, tu sais, je dis pas que je. T'sais, si tu me poses des questions, je vais t'aider, c'est sûr. Mais je n'irai jamais te chercher par la main. Puis, si tu viens me voir et tu fais pitié ou tu veux faire pitié, ça ne marchera pas. C'est pas dans ma personnalité, moi, de prendre quelqu'un vers pitié, mais je vais te dire la vérité à 100%. Puis je pense que c'est ça, les amis. Oui. Je pense que c'est ça. T'sais, du monde qui tient à toi, ils vont te dire la vérité en pleine face puis ils ne vont pas te faire à croire quelque chose qui n'est pas vrai.
C'est bien plus constructif.
C'est ça. Puis si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ben on n'était peut-être pas si amis que ça, dans le fond. Parce que si je te dis la vérité, ça veut dire que je veux le meilleur pour toi. Je veux du bien. Olivier, on se parle par message. On se croise souvent. Olivier, je l'aime bien. Là, c'est un des gars les plus drôles que je connais.
Vraiment. Son surnom, le Canadian Gangster, il va bien avec sa moustache. C'est un personnage en soi-même.
Exact.
Écoute, ben merci de répondre à la question. J'ai une deuxième question. Je vais mettre ça là parce qu'on m'entendra moins bien. Une petite seconde, désolé pour l'effet sonore. La deuxième question du public. Quels sont les trois arts martiaux les plus efficaces pour avoir du succès en UFC?
Ben moi, j'ai tout fait à l'envers. Quand j'ai fait ça, j'ai commencé par la boxe. Après ça, le jiu-jitsu brésilien, j'ai fini par la lutte. Je te dirais, toutes les fois que quelqu'un me demande par quoi je devrais commencer, par de la lutte. C'est la lutte. Vraiment, aujourd'hui, on voit que la lutte domine. Il y a beaucoup de lutteurs qui sont champions de l'UFC. Il y a beaucoup de lutteurs qui sont champions de d'autres organisations. Vraiment ça. Il faut avoir une bonne base de lutte. Le combat commence debout. Je ne dis pas que c'est facile d'apprendre à boxer, mais je dirais que c'est plus accessible à tout le monde d'apprendre à boxer qu'à être bon en lutte rapidement. Et si tu veux te développer au niveau du jeu au sol, good, c'est super bon. Il t'en faut du jeu au sol. Il faut que tu sois capable de l'amener au sol aussi. Donc, pour moi, la lutte, c'est la première chose que tu devrais focusser si tu veux te lancer dans les arts martiaux mix.
Excellente réponse, encore une fois. Autre question du public, mais celle-là est un peu mixée avec la mienne parce que je me demandais déjà. J'ai reçu Mark Griffin, ton collègue d'RDS au niveau du baseball la semaine dernière. J'ai posé la même question, puis je n'ai pas le choix de te poser. C'est tellement similaire. Les deux, vous êtes des anciens athlètes qui sont devenus dans les médias, dans leur sport respectif par la suite. On sait qu'en tant qu'athlète, souvent, les médias, c'est pas nécessairement bien vu. Il y en a qui ça tape un peu ses nerfs après un combat, surtout de te faire mettre un micro dans la face, puis qu'est-ce que tu penses de ta défaite? Ça fait mal un peu, tu n'as pas le goût de t'exprimer là-dessus. Et les médias peuvent être perçus, peuvent être redoutés un petit peu. Et puis, toi, tu as fait le switch par la suite au niveau des médias. Est-ce que tu as vu vraiment que les combattants, est-ce qu'ils t'ont perçu d'une certaine façon? Est-ce que ça t'a aidé plutôt à avoir une certaine confiance plus rapidement? Ou au contraire, il y en a qui sont un peu réticents de donner des confidences parce qu'ils disent « Ah, il a switché l'autre bord dans l'ennemi.
» Non, écoute, moi, j'étais déjà dans les médias quand je combattais. Donc, je faisais les deux déjà. Donc, j'ai vu les deux côtés et… Non, écoute, je pense que, tu sais, là, j'ai fait une série d'entrevues pour TSN puis UFC Canada avec Georges Saint-Pierre, avec Cyril Gane, Francis Ngannou. Tout ça est sur la page Facebook de l'UFC Canada. Puis, non, et je pense que j'ai une manière d'approche différente des médias qui n'ont jamais vécu c'est quoi être dans un octogone. Je comprends c'est quoi la réalité, je comprends c'est quoi la dureté, le sacrifice à faire en entraînement. Et aussi, je pense, quand je décris les combats à RDS, ça paraît que je suis un fan de ce sport-là aussi, mais l'œil intérieur que tu sais, un bon journaliste ne pourra pas voir, ne pourra pas faire sentir comme moi je vais le décrire parce que je l'ai vécu, je sais quand quelqu'un est en dessous, ça peut être long 5 minutes, même si c'est juste 5 minutes, ça peut paraître de 15 minutes. Il y a des situations que j'ai tout vécu, ces situations-là. Puis en même temps d'avoir été combattant et commentateur, avoir été commentateur, je suis devenu un meilleur combattant à cause de ça. Parce que je voyais tellement de situations, j'ai tellement décrit des combats pendant que j'étais encore actif comme athlète, ça m'a donné plus de connaissances pour devenir un meilleur combattant. Et ça, je suis sûr à 100%. Et aujourd'hui, écoute, je pense que je peux approcher n'importe qui est dans ce sport-là puis qui vont s'ouvrir à moi. Je pense que j'ai une façon d'approcher les combattants qui sont différents d'un journaliste normal. Ils se sentent en confiance envers moi parce que je pense que j'ai été, tu parlais tantôt, je pense que j'ai tout le temps donné tout ce que je pouvais. J'ai livré mon cœur dans ce sport-là. Le monde savent c'est quoi mon parcours. J'ai tout le temps été vrai avec tout le monde. Moi, je peux aller m'entraîner n'importe où dans le monde. Je suis sûr et certain qu'ils vont m'ouvrir leur porte. Je ne suis pas en beef avec personne. Vraiment, avec personne. Ben, peut-être avec Jake Ellenberger, mais ça, c'est différent. Mais ça date de très longtemps. Mais à part ça, sérieusement, puis je l'ai fait. J'ai fait le tour du monde pour m'entraîner. Puis tout le monde, toutes les fois, j'arrivais, puis ils étaient contents de me voir. Puis ça, pour moi, je suis fier de ça, d'avoir développé une relation avec tout le monde. Puis je me suis déjà battu avec du monde qui était très proche de moi, Scott Smith. Mais à un moment donné, c'est de la business. C'est 15 minutes de business. Puis après ça, ben, tu t'en vas prendre une bière avec ton adversaire. Puis gang ou pair, it is what it is. Puis aujourd'hui, c'est encore ça. Puis non, mais pour finir, pour répondre à ta question, je pense que sérieusement, à cause de l'approche que j'ai, à cause du vécu que j'ai dans ce sport-là, j'ai aucune difficulté à parler aux combattants aujourd'hui.
Écoute, c'est une excellente réponse. T'as très bien répondu, vraiment très clairement. Mais écoute, c'est ça un peu que je disais dans l'autre épisode avec Mark Griffin, c'est que ce que je déplore un peu des gens qui reprochent aux journalistes en question, tu sais, on a pensé à Patrice Brisebois un peu à TVA Sports, en fait, qui a eu beaucoup, beaucoup de critiques. Les gens s'en ont pris à lui. C'est sûr, c'est pas toujours évident quand tu fais la transition parce que tu n'as pas utilisé nécessairement la communication. Puis là, il faut que tu développes des mots, il faut que tu sois rapide. Ta caméra d'en face, tu n'as pas droit à l'erreur parce que c'est repris immédiatement sur des réseaux sociaux. Mais on a d'excellents joueurs analystes ou anciens athlètes qui sont devenus analystes par la suite. Quand on pense à Tony Romo au niveau de la NFL aux États-Unis, Marc Denis au hockey, toi dans MMA, tu sais, ça reste que c'est tellement des comme tu dis, les gens ont un œil qui sont capables de, tu sais, Tony Romo est capable de devenir jeu avant qu'il soit effectué. Ouais. Un analyste normal n'est pas capable de savoir ça parce que lui, il l'a vécu à game, c'est lui qui calait les jeux. Fait que c'est un peu la même chose avec toi. Toi, tu peux dire comment un combattant se sent rendu à tel niveau du combat, est-ce que la fatigue embarque par ses yeux. Tu sais, tu as vraiment le feeling du combat, du combattant que monsieur, madame, tout le monde n'est jamais capable d'avoir.
Oui, puis souvent, je vois les soumissions se dessiner de l'avance, peut-être un 5 secondes d'avance, puis là, ça arrive. Là, je passe pour un génie. Puis mon réalisateur, il dit, je peux pas croire, tu l'as vu venir. Hein, mais je connais les positions au sol, je sais, ils se préparent pour quoi. Juste la manière que les gars se placent. Mais tu parlais tantôt de Patrice Brisebois, que je connais très, très bien. Lui, le désavantage qu'il a eu, c'est qu'il a commencé dans le sport le plus populaire au Québec. Donc, c'est sûr que... Tu sais, moi, quand j'ai commencé en 2008, parce que ça fait 12 ans que je fais ça, tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui regardait l'UFC là, en français. Donc, j'ai été capable d'apprendre sans trop avoir de critiques parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regardait ça, pas comme le Canadien de Montréal. Là. Donc, tu sais, lui, il l'a eu à la dure, justement à cause du sport qu'il commentait. Tu sais, on regarderait les combats que j'ai décrits en 2008-2009 quand j'ai commencé. Pas mal sûr que je ne suis pas bien mieux. Là. Yeah. C'est sûr, avec les années, je me suis amélioré. J'ai été prendre des cours de diction. J'ai été chercher des outils pour améliorer justement mon jeu devant la caméra. Puis être capable de bien décrire les combats. Puis pas toujours répéter les mêmes mots. Puis être capable d'avoir un débit plus tranquille. Mais ça, il faut que tu le fasses toi-même. Il faut que tu veuilles le faire. Puis moi, je l'ai fait. Puis aujourd'hui, bien, tu sais, je te l'expliquais tantôt. J'étais un fan de ce sport-là avant d'être un athlète. Puis je le suis encore. Puis. Ça paraît aussi.
C'est exactement. Tu transmets ta passion, puis peu importe ce que tu fais dans la vie, je pense que c'est important de la transmettre, mais toi, c'est surtout comme analyste, tu n'as pas le choix, commentateur, peu importe ce que tu fais dans les médias, il faut que tu transmettes ta passion, puis je pense que tu transmets très, très bien aux gens. Question qui me sort du champ droit un peu, là, The Predator. Ton surnom, là, ça sort de où, ça? Peux-tu nous expliquer un peu de ce que...
Écoute, c'est pas le nickname le plus original, mais comme je te disais tantôt, moi, j'avais pas un grand talent pour faire ce sport-là. Puis quand j'ai commencé avec mon équipe à Québec, qui s'appelait Team Union, j'avais un grand cœur, je voulais toujours m'entraîner. Puis même quand c'était à la fin des classes, à la fin des entraînements, je demandais tout le temps à quelqu'un d'autre pour faire un autre sparring de boxe ou un autre sparring de jiu-jitsu. Puis je cherchais tout le temps quelqu'un après pour continuer parce que je voulais m'améliorer. Puis on disait que je cherchais tout le temps une nouvelle proie. Puis c'est eux autres qui m'ont trouvé le morceau. Ils disaient « The Predator, ça serait bon pour toi. » Puis ça m'est resté toute ma carrière.
C'est un bon surnom. Surtout, j'invite les gens à l'écouter la chanson sur YouTube avec
Johnny Rook.
Ouais, Johnny Rook. Je cherchais son nom tantôt en plus. C'est tellement. Écoute, moi, je l'écoutais le moment traînant le matin. J'aimais tellement ça. C'était inspirant. Écoute, puis,
tu parlais d'une question du champ droit, là. Ben ça, c'est une chanson du champ gauche, je te dirais. Parce que ce gars-là m'a contacté en 2009, je pense. Quelque chose de même. Puis, il me disait, moi, je viens de la Nouvelle-Écosse, j'étais un grand fan, j'ai fait des chansons d'entrée pour des combattants locaux, ça te dérangerait-tu que j'en fasse une pour toi? T'sais, moi, là, des demandes, j'en ai, là. T'sais, j'en ai plus qu'une pour n'importe quoi, là, pour vrai. Puis ça, lui, il est arrivé, j'ai dit, regarde, vas-y, garde-toi, t'sais, mais t'sais, je m'attendais à vraiment à pas grand-chose, on s'entend, là. Puis finalement, 2 mois plus tard, il m'a envoyé ça, il dit, écoute ça, puis j'étais avec plein de monde chez nous, puis quand on avait le droit de se voir, j'étais avec plein de monde chez nous. Puis là, j'ai dit, check ça, check bien le taouin qui a écrit cette chanson-là, check bien ça. Là, je pars ça. C'est bon, man. C'est vraiment bonne, la toune. Là, on t'a dit, puis là, on n'a pas arrêté de la jouer toute la soirée. Vraiment bonne, bon, ouais, c'est une surprise. Puis écoute, je ne pouvais pas l'utiliser au UFC parce que tu n'as pas le droit d'avoir des chansons personnalisées. Mais quand je me suis battu à l'extérieur de l'UFC, je l'ai utilisé 2-3 fois.
Écoute, c'est vraiment excellent, puis non, c'est rendu dans ma playlist, je l'admets, on salue Johnny Rook. Écoute, question encore une fois, c'est un peu mix, je te dis tout de suite, là, on n'a pas vraiment de précision dans les questions, mais c'est mon but, ça soit mélangé là, pour qu'on ait un podcast original. Parle-nous un peu de, si on veut, ton début dans la UFC, ton premier combat avec Tito Ortiz, c'est une chance, je pense qu'on en a parlé un peu dans ton documentaire. C'est une chance que tu n'as pas vu venir directement. Elle t'a surpris, je pense, d'avoir ça à la dernière seconde, puis tu as sauté sur l'occasion carrément.
Ben exactement. Tu sais, c'est pas une chance, c'est une opportunité qu'on m'a donnée.
Une opportunité, effectivement.
Exact. Puis, tu sais, on se parle aujourd'hui parce que j'ai pris cette décision-là. Il n'y a personne qui m'a forcé à prendre cette décision-là. Puis, dans ce temps-là, Tito Ortiz, en 2004, c'était encore le poster boy de l'UFC. Moi, c'était mon premier combat à l'UFC. Je me battais pour le premier combat en sous-carte. Puis, son adversaire, il a eu une embolie cérébrale. Donc, il n'a pas été capable de se battre. Donc, 4 jours avant, Tito Ortiz, qui... puis, tu sais, dans ce temps-là, on faisait la promotion d'un combat. Puis, c'est Tito Ortiz. Ils ne pouvaient pas perdre leur main event. C'est l'UFC 50. Puis, on a probablement appelé tout le roster de l'UFC là, pour demander qui voulait remplacer. Puis, il n'y a personne qui a voulu. Il y a juste... moi, j'étais le dernier à appeler, c'est sûr. J'étais déjà sur la carte. On nous a appelé. On a dit oui. C'était une opportunité qui nous a offert de rentrer par la grande porte de l'UFC, me battre contre mon idole, le gars qui était sur mon screensaver d'ordinateur. Puis, tu sais, il y a une phrase que j'ai lue il y a très, très longtemps et je me suis dit, à un moment donné, ça va arriver, ça. Et c'est « Entraîne-toi aussi fort jusqu'à temps que tes idoles deviennent tes rivaux. » Puis, ce soir-là, il était de l'autre bord de la cage. Puis, je savais que j'avais pas grand-chance de le battre, mais je me suis dit « Man, cette phrase-là, c'est vrai, c'est peu, ça se peut, ça arrive, ça m'arrivait ce soir-là. Puis, tu sais, j'en parle, j'ai encore des frissons. Parce que, tu sais, ce combat-là, c'est même après 15 ans de carrière, à mon dernier combat à l'UFC, il commençait les vidéos de présentation de moi avec ce combat-là. Fait que, tu sais, ce combat-là, il, tu sais, même si ça ne me tenterait plus de parler de combat de toute ma vie, même si j'étais écœuré, ce combat-là est dans ma peau. Tu sais, ce combat-là, il me définit en tant que personne. Puis, si j'avais pas pris cette décision-là, si on n'avait pas pris cette opportunité-là de se battre contre Tito Ortiz, ben, on se parlerait pas aujourd'hui, puis j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est la décision qui a changé ma vie, mais c'est nous qui l'a pris, c'est moi. Puis, encore une fois, tu sais, je me dis, good job, Pat. Tu as pris cette décision-là pendant que plein d'autres avant toi qui ont été appelés ont décidé de pas la prendre.
Exact. Tu sais, c'est important de savoir saisir les opportunités. D'ailleurs, ma conférence se nomme « Créer vos opportunités », en fait. Fait que c'est un peu ça. C'est comment créer ses propres opportunités sans, tu sais, de ton côté, toi, tu ne l'as pas refusé, tu as foncé, tu t'es pas posé de questions. Mais il y en a beaucoup d'autres avant toi qui l'ont refusé, qui ont posé trop de questions sûrement par rapport à tout ça. Fait que tu sais, des fois, c'est de foncer, d'aller de l'avant, puis toi, écoute, tu l'as bien fait, regarde ce que ça a donné par la suite. On ne sait pas ce que ta carrière aurait été sans ce combat-là, puis ça t'a vraiment défini clairement. Là.
Bien, à 100%. Tu sais, défini jusqu'à temps que, tu sais, 15 ans plus tard, on en parle encore. Puis même quand, à toutes les fois que je fais des entrevues, on parle encore de ce combat-là. Puis je peux pas, tu sais, je peux pas dire au monde d'arrêter d'en parler parce que c'est, tu sais, c'est la raison pourquoi que je parle à tout le monde. C'est la raison pourquoi que je fais des conférences aujourd'hui. C'est la raison pourquoi que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui à cause du 22 octobre 2004. C'est cette date-là qui a changé ma vie, dans le fond.
Quel combat. J'invite les gens à aller voir les flashs sur YouTube. Il y en a plusieurs extraits, highlights. C'est un très bon combat. Tu sais, malgré la défaite, Écoute, c'est un combat qui a été très serré mais, quand même, là, si on s'entend.
Mais honnêtement, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, perdre ce combat-là. Ouais. J'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Moi, je n'étais pas supposé rester plus que 30 secondes à l'avant de ce gars-là. Personne ne me connaissait. C'est mon premier combat UFC. Je me bats sur le main event d'Atlantic City. Puis, tu sais, si j'avais gagné ce combat-là, j'étais dans le trouble. Là. En bon québécois, j'étais dans la marde, là, on va se le dire, parce que je n'étais pas dans la bonne catégorie de poids. Je n'étais pas rendu à ce niveau-là dans ma carrière non plus, au niveau talent, de me battre contre des Tito Ortiz. Et si je gagne contre Tito Ortiz, de un, je décide pas de descendre à 185 livres, je reste à 205. Et après ça, ceux qui suivent les arts martiaux mixtes, ils vont savoir que j'étais dans le trouble, parce qu'après, il y avait Randy Couture, Vitor Belfort ou Chuck Liddell. Je m'aurais fait défoncer. C'est sûr et certain. Donc,
évidemment.
avoir perdu ce combat-là, c'est la meilleure. Non, mais c'est écoute, je sais. Là, la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est d'avoir perdu ce combat-là de cette façon-là. Je me suis fait un nom sur le nom de mon idole. Ouais. Après ce combat-là, personne ne parlait de la victoire de Cyril Ortiz. Tout le monde parlait de c'est qui c'était petit Canadien gras-là qui est arrivé et qu'on s'en attendait pas.
Ouais, t'avais pas un chèque d'aujourd'hui.
Ah, exact. Fait que, tu sais, des fois, tu sais. Comme tu le disais, pas avoir peur d'échouer. Moi, j'ai échoué, puis c'est à cause de ça que j'ai eu une belle carrière après. Fait que des fois, tu sais, faut que tu saisis ces opportunités, même dans la défaite.
Eh bien dit, écoute, on va faire une rafale de questions dans les derniers segments qui restent. Ta pire blessure que tu as subie en carrière, est-ce que c'est dans ton combat contre Anderson Silva qui a été très difficile de ce que je crois?
Ben oui, tu sais, j'ai eu beaucoup de blessures dans ma carrière. Je pense que je me suis opéré 11 fois, là, surtout dans les genoux. Sauf que t'sais, pour plusieurs raisons, cette blessure-là, à cause c'est arrivé au combat de championnat du monde, c'est la malchance au pire moment. À cause que j'ai été hors service pendant un an et demi. Et quand je suis revenu, ça a été difficile de reprendre le rythme. J'ai perdu deux combats, on m'a sacré dehors. Je suis revenu à l'UFC en 2012 pendant. Mais, tu sais, aujourd'hui, je peux dire, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais as-tu des regrets? Je n'ai pas de regrets. Sais-tu ce que je dis aujourd'hui? Je dis, moi, là, je me suis blessé, c'est correct. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis battu pour le championnat du monde de l'UFC. Puis il y a du monde qui a bien plus de talent que moi dans cette organisation-là, qui n'auront jamais cette opportunité-là. Fait que, moi, là, dans mon CV, l'UFC 90, 25 octobre 2008, je me suis battu pour le championnat du monde. Puis ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever.
Ah, ça, t'as tout à fait bien dit. Écoute, c'est ancré avec toi pour tout le temps. Puis, tu sais, d'avoir combattu Anderson Silva, qui, on s'entend, qui c'est une légende malgré tous les à côté qu'on connaît aujourd'hui. Ça reste quand même, peu de gens peuvent savoir vanter de l'avoir combattu. Puis d'avoir passé proche quand même. Mais si c'était pas de ta blessure, le combat aurait fini différemment, j'en suis certain.
Écoute, je ne dis pas que je suis en train de le gagner, mais je n'étais certainement pas en train de le perdre non plus.
Non, tu étais en bonne posture, puis je pense que dans son regard, on le voyait, il avait l'air craintif, puis c'est arrivé par la suite. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de tout ça? On s'entend que Georges a vraiment milité dans la fin de sa carrière, encore aujourd'hui, pour que le sport soit plus clean, soit plus, je pourrais dire, moins de dopage carrément, là, parce qu'on est tanné de tout ça. Est-ce que tu penses que ça s'en va vers la bonne voie? Est-ce que tu penses que ça a donné quelque chose, tout le combat de Georges? Ou malheureusement, c'est encore trop présent comme des John Jones qui apprendront jamais de leurs erreurs?
Ouais, je ne vais pas partir sur le cas de John Jones parce que ma mère m'a toujours dit que ce n'était pas de bonne chose à dire, dis rien. Mais écoute, le sport, les tricheurs, il va toujours en avoir. S'il y en a qui trichent aux Olympiques, dis-toi que dans un sport comme ça, il va toujours en avoir. Le sport est beaucoup mieux. On a trouvé des tricheurs en dedans des grandes vedettes. Donc ça, pour moi, ça, c'est une victoire parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas choisi les personnes qu'on allait tester. On a testé tout le monde, puis il y a des grandes vedettes qui se sont faites prendre. En même temps, est-ce qu'on était surpris? Non. T'sais, je sais que moi, Tito Ortiz, Anderson Silva, je sais, là, quand je me suis battu avec, il était sur le jus. Là. Puis, t'sais, on savait d'avance. Aussi. Est-ce que moi, j'ai toujours été propre toute ma carrière? Non. Mais en début de carrière, je te dirais à partir de 2007-2008, j'ai été clean jusqu'à la fin de ma carrière. Mais tu sais, au début, je veux pas dire que j'avais pas le choix, mais kind of. Tu sais, en voulant dire, tout le monde était si gros jus, puis tu sais, à un moment donné, tu essaies de rattraper, puis au talent égal, à un moment donné, ça va faire la différence. Ça ne te donne pas du talent, mais ça te donne une endurance et une capacité de t'entraîner deux fois plus fort que les autres. Puis, tu sais, je ne suis pas gêné de dire que je n'ai pas été clean toute ma vie, toute ma carrière. Mais je l'ai été quand c'était le temps. Je me suis battu pour Combat Championnat du monde. J'étais clean à 100%. Puis le reste de ma carrière, je l'ai été aussi parce que je trouvais ça important pour ma santé. Puis je trouvais ça important pour l'éthique du sport aussi. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu sais, encore une fois, ça fait partie de mon parcours. J'ai appris de ça. Puis tu sais, je suis capable d'en parler avec connaissance de cause parce que je suis passé par là. Puis je sais c'est quoi les effets, les mauvais effets. Je sais c'est quoi ça donne aussi. Puis, je suis capable de reconnaître quelqu'un qui est là-dessus. Juste par sa manière d'agir quand le combat va pas bien ou quand le combat va bien, peu importe. Tu sais, j'ai pas la vérité absolue, mais il y a quand même des petits signes que je suis capable de détecter. Puis aujourd'hui, ben, faut remercier Georges pour sa guerre contre ça. Puis l'USCDA est là. C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux qu'avant.
Effectivement. Écoute, merci de ta franchise, en fait, Pat, parce que je pense que c'est important de le dire aujourd'hui que c'est quand même moins tabou. On en parle un peu plus. Il y a beaucoup de gens, dont justement Éric Gagné, qu'on a parlé dans un autre podcast, qui malheureusement, lui aussi, il a fait certaines erreurs, mais il en a appris puis il en a parlé. Mais toi, qu'est-ce qui t'a, je pourrais dire, si tu me permets une question que je n'avais pas décrit, là, mais qui me vient en tête, qu'est-ce qui a pu au départ t'influencer? Est-ce que c'est parce que les autres en prenaient? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a approché sans nommer de nom pour te mettre dans le trouble? Là, mais, non, qu'est-ce qui a fait que tu as dit, ben, regarde là, je vais essayer de certains produits?
Ben, écoute, si tu veux en faire, tu vas en faire. C'est pas difficile à trouver. Là. Tu t'en fais offrir toutes les semaines, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, c'est pas difficile à trouver. Puis moi, je suis en début de carrière, 26 ans. Je cherchais à. Puis en plus, là, je courais après ma première victoire à l'UFC. Puis là, je savais que. Je regardais les gars, je disais, voyons donc, ça se peut pas. Là. T'sais, moi, j'étais un petit gros, moi, quand j'ai commencé, là, quasiment. Là, fait, on m'appelait le Canadian Bacon. On s'entend, là. Ils disaient que j'étais bon, mais j'étais gras. Fait que, au moins, on m'appelait le Canadian Bacon pour ça. Mais, tu sais, mané au talent égal, j'en regarde ça. C'est comment qu'ils font? Comment pour être comme ça? T'sais? Puis finalement, je me suis laissé embarquer là-dedans. Mais à mané. T'sais, ça ne faisait pas partie de mes valeurs, ça ne faisait pas partie de ce que je voulais être comme un athlète, comme un modèle, si je pouvais l'être pour quelques-uns. Puis c'est pour cette raison-là vraiment que j'ai décidé de pas embarquer dans le bain plus longtemps que ça. Puis écoute, c'est ça la raison.
Est-ce que tu as déjà eu peur? Est-ce que tu sais, on a entendu parler? Moi, j'ai lu le livre d'Éric aussi là-dessus, Éric Gagné, qui parlait vraiment qu'à un moment donné, il s'est levé un matin, puis là, les effets secondaires avaient embarqué, puis là, il commençait la misère à se lever de son lit, tomber dans la douche ou je ne vais pas rentrer dans les détails un peu dégueulasses, ouais. Mais le sang coulait de son nez. Est-ce que toi, tu as eu un certain moment que tu as dit OK, là, j'ai vraiment la chienne, j'arrête ça, puis on passe à d'autres choses?
Non, je pense qu'Éric a pris des affaires pas mal plus fort que
moi. Non, mais tu sais, je ne parle pas nécessairement de lui, mais d'autres gens effets secondaires. Là,
ouais, non, alors moi, j'ai arrêté par conscience.
OK.
Et pas parce que j'ai eu peur de rien.
Bon, OK. C'est parfait. Mais merci beaucoup encore une fois de ta franchise. C'est vraiment apprécié. Pour toi, vraiment, tu sais, on parlait de blessure un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu es en bonne santé physique? Ça reste un sport qui est très difficile sur le corps humain. Est-ce que tu te lèves le matin, justement, puis tu n'as pas de misère à prendre ta fille dans tes bras? Ou, est-ce que tu es quand même en bonne shape aujourd'hui, Patrick Côté, ou il y a des séquelles qui ont resté?
Ben, mon corps est magané, c'est sûr. Là, j'ai des genoux d'un gars de 70 ans. Mais tu sais, je suis capable de prendre ma fille, il n'y a pas de problème. Là. Ça me prend peut-être un petit 10 minutes à me partir le matin. Le plus important, le corps, ça ne me dérange pas. Le plus important, c'était ma tête. J'ai pris ma retraite spécialement justement pour ça parce que dans mes deux derniers combats, je me suis frappé plus fort que dans mes 15 dernières années parce que les coups, je ne les voyais plus venir parce qu'à un moment donné, tu vieillis, tu ralentis. Puis moi, je ne me suis jamais fait knocker hard cold. Tu sais, je n'ai jamais reçu un coup de poing puis j'étais en convulsion ou à terre. Puis quand ma fille est née, pour moi, ces images-là, je ne veux jamais qu'elle voie ça. Puis quand elle va avoir 7-8 ans, elle va retourner voir sur le net, les images restent. Puis elle ne verra jamais ces images-là. Pour moi, c'était super, super important. Puis un an après ma retraite, j'ai fait des tests pendant 6 mois de temps avec un neurologue, justement pour voir si j'avais des séquelles, des choses comme ça. T'sais, on a fait beaucoup, beaucoup de tests pendant des gros tests, vraiment. Je sortais de là, j'étais brûlé mort mentalement. Puis finalement, tout est beau. Puis on va faire ça tous les 3 ans pour justement regarder si c'est correct. Puis moi, j'ai fait ce test-là. Puis lui, il m'a dit il y a 3% d'athlètes de sport de combat ou sport de contact, même les footballs, qui vont voir après s'ils ont des séquelles. C'est pas beaucoup. Le monde a peur de savoir ça. Mais moi, je me suis dit, si j'ai quelque chose à faire, tu sais, moi, quand ma fille va faire ses devoirs, je vais l'aider. Là. Je vais être là, elle, pour elle, tu sais, surtout mentalement, physiquement, whatever. Tu sais, on s'arrangera autrement, mais mentalement, ça se guérit pas. T'sais, fait que t'sais, la tête, ça ne se guérit pas. Fait que pour moi, c'est ça le plus important. Puis quand j'ai pris ma retraite, ça a été un gros. Ça a été une grosse partie de ma décision. Mais ce que je suis le plus fier, c'est que je suis sorti sur mes propres termes. T'sais, pas parce que j'ai eu une blessure, pas parce que je n'étais plus capable de compétitionner, pas parce qu'on m'a sacré dehors, parce que ça ne me tentait plus. Puis je suis parti en paix avec ça.
Mais écoute, c'est vraiment bien. Puis tu parles un peu de. Excuse-moi, tu viens de glisser un mot sur ton dernier combat. Le moment de venue de ta retraite, je pense que c'était important pour toi de faire ça à ce moment-là précisément. Je me souviens, j'étais à la cage avec ma copine, puis j'ai dit non, j'avais le feeling. Tu ne l'avais pas annoncé, on l'a su live devant tout le monde à la cage, puis un gros dans la cage. Mais tu sais, on l'a vu, mais on avait un feeling quand même que ça s'en venait, mais ça reste qu'il y avait un peu de déception. Toi, est-ce que c'était clair dans ta tête qu'à ce moment-là, en 2017, contre Thiago Alves, que c'était ton dernier combat que ça se terminait?
Oui, j'avais pris la décision un mois et demi avant et personne ne le savait. Même ma femme ne le savait pas. Personne ne le savait. Oh. Je voulais vivre ces moments-là tout seul. Je voulais vivre ma dernière marche vers l'octogone tout seul. Je voulais que personne partage ces moments-là avec moi. Je voulais être égoïste dans cette situation-là parce que, aujourd'hui, j'ai pris ma retraite, puis je me dis, tu sais, est-ce que je vais m'ennuyer toute ma vie, là? C'est pas le sport. C'est tout ce qui est alentour. Voyager avec mon équipe, même la coupe de poids, le fight week, la marche vers l'octogone, la dernière fois que Bruce Buffer va dire mon nom, la dernière fois que je vais entendre la porte fermée de l'octogone, tout ça, c'est des choses qui vont toujours me manquer. Fait que je me suis dit, la dernière fois que je vais vivre ça, c'est pas vrai que quelqu'un va partager ces moments-là avec moi. Ça va être moi le seul qui va savoir si c'est la dernière fois que je vais vivre ça. Puis ça m'a donné, je pense, une paix intérieure vraiment avec cette décision-là. Puis tout le monde a compris ce cheminement-là quand je leur ai expliqué. Puis même ma femme a dit « Garde, t'as vraiment bien fait ça. » Puis aujourd'hui, tu me demandes est-ce que je m'ennuie de mon sport? Absolument pas. J'envie personne qui se bat dans un octogone aujourd'hui. J'ai fait le tour de ce sport-là puis je suis parti sur mes propres termes. Puis c'est bien correct demain.
C'est correct. Pour aujourd'hui, ben, t'es quand même dans l'univers de la UFC avec tes descriptions de combat, tes analyses. Puis, tu sais, ça reste que tu peux au moins continuer de côtoyer ton sport en tout temps. Puis, c'est la bonne chose. Là. C'est ce qui permet aussi de connecter avec ta passion encore une fois.
Oui, exact. C'est ça. Ça reste une passion.
Exactement. Écoute, en terminant, Patrick, j'ai une petite question rapide, plus au niveau... en fait, il m'en reste une au niveau de la UFC, puis une petite en terminant. C'est quoi vraiment, tu pourrais dire, le moment le plus... pas marquant, mais le combat le plus difficile que tu as eu de ta carrière, pas au niveau blessure, là, vraiment là que tu dis, lui, j'ai rushé. Ça peut être une victoire comme une défaite. C'est quoi vraiment ton combat que tu vas te rappeler comme étant le plus tough de ta carrière?
Ben, c'est pas un combat qui est extra spectaculaire, mais c'est mon combat à l'UFC 86 face à Ricardo Almeida parce que c'était un style. Ma dernière défaite avant ce combat-là, c'était comme un combattant qui était exactement pareil, un spécialiste au sol. Puis c'est le combat qui était pour moi mentalement, qui était le plus dur, à garder mes émotions comme il faut. J'étais extrêmement nerveux. Je n'ai pas été nerveux beaucoup dans ma carrière, mais celui-là, je l'étais. Puis je savais qu'une victoire, ça me donnait un combat de championnat du monde ensuite face à Anderson Silva. Puis, c'est un combat que j'ai gagné par décision partagée. Puis si à partir de ce combat-là, je pense que le monde a vu que j'avais amélioré mon jeu d'ensemble. C'est pas le combat le plus spectaculaire, mais moi, pour moi, c'est la victoire que je suis le plus fier dans ma carrière.
Ben écoute, c'est très bien dit. Et la question qui était la plus importante pour moi de te poser, parce que c'est ce qui m'a le plus marqué de ton reportage en fait à RDS, c'est quoi qui a été ta perte de poids en fait en fin de carrière? Là? Ça a été très difficile pour toi dans ton dernier combat. Comment tu as vécu ça? Peux-tu expliquer aux gens pourquoi on est obligé de perdre du poids pour une simple photo pesée officielle, puis qu'après ça, on part prendre 20 livres dans le combat? Explique-nous tout ce processus-là de perte de poids assez rapidement pour ne pas prendre trop de ton temps.
Hey, c'est parce que l'affaire, c'est que tu n'es pas obligé. Tu dis que tu es obligé de perdre tout. Tu n'es pas obligé. C'est un choix personnel. Tu n'es pas obligé de te battre dans une catégorie de poids. Il n'y a personne qui va te forcer. Moi, je m'étais battu 8 ans à 185 livres. Puis à un moment donné, avec les connaissances de nutrition, des hydratations que tout le monde connaît, les gars à 185 livres étaient rendus des monstres. Là. Donc, pour moi, quand je me suis battu, mon dernier combat à 185 livres face à Alessio Sacara, je le regardais l'autre bord. Je me disais, c'est pas le même gars qu'hier, certain. Là. Il avait doublé. Donc, je me suis dit, je vais faire les sacrifices, faire 170 livres, travailler avec les bonnes personnes, Jean-François Gaudreau notamment, qui s'occupait de ma nutrition, puis vraiment qui m'a amené mon niveau à un autre step. Puis, j'ai pu réussir à prolonger ma carrière de 4-5 ans à cause de cette courbe de poids-là. C'est un sacrifice que j'étais prêt à faire. Mais c'est sais, c'est long à expliquer, là, ce processus-là, mais tu sais, c'est de la science. Puis il faut que tu travailles avec du monde qui connaisse ça parce que c'est extrêmement dangereux. Est-ce que tu, si quelqu'un me demande, est-ce que je devrais faire ça? Absolument pas. Je conseille personne de déshydrater de 20 livres. Là. Absolument pas. Mais moi, ça faisait partie de ma job. Fallait que je le fasse. Puis je me suis arrangé pour être avec du monde qui savait quoi faire puis rendre ça le plus sécuritairement possible, même si c'est extrêmement dangereux.
Mais ça doit être extrêmement difficile. Justement, comme tu l'as dit, de déshydrater de 20 livres, là, c'est... J'imagine pas comment on se sent durant ce moment-là. Ça doit être quelque chose d'assez unique.
C'est de l'inconfort.
L'inconfort. Écoute, je vais te laisser là-dessus, Pat. Puis je veux juste en terminant, est-ce que tu as un mot à dire à tous les jeunes qui nous écoutent, qui rêvent de faire de réaliser en fait leur objectif qui est peut-être assez irréaliste pour eux, mais est-ce que toi, tu as quelque chose que tu peux leur dire qui pourrait les inspirer en fait à réaliser leur rêve?
Ben oui, écoute, moi je me suis planté, j'ai échoué beaucoup, beaucoup de fois. J'ai jamais perdu le but que je voulais atteindre. J'ai gardé surtout l'esprit ouvert. J'ai écouté beaucoup de monde dans ma vie. Et l'important, c'est d'avoir un bon entourage qui veut le bien pour toi et non pas juste avoir la lumière sur eux autres. Et tu sais, c'est important de connaître nos forces puis vraiment de les exploiter. Puis de connaître nos faiblesses aussi, puis d'être capable de reconnaître qu'on est peut-être moins bon à quelque part, d'aller chercher quelqu'un qui peut t'amener à un autre niveau. L'entourage, c'est ce qui va t'amener le plus loin dans ma vie, ce qui m'a amené le plus loin dans ma vie, parce que je dis tout le temps que j'étais tout seul à me battre dans l'octogone, mais si je n'ai pas de partenaire d'entraînement ni de coach, je n'aurais jamais été capable de me battre. Fait que pour moi, ce sport-là, c'est un sport d'équipe. C'est drôle à dire parce que j'étais tout seul, un contre un dans l'octogone, mais je ne pouvais pas devenir bon en me battant, à frapper sur un sac de sable dans mon sous-sol. Donc, tu trouves une passion, tu trouves du monde qui veulent t'aider avec cette passion-là. Puis surtout, n'aie pas peur de te planter parce que ça fait partie du processus.
Écoute, c'est encore une fois des paroles de sage. Merci énormément, Pat Côté, d'avoir été avec nous. Écoute, c'est ce qui m'a fait à l'épisode numéro 7 du Made in Québec podcast. Et puis, j'invite tout le monde, à ceux qui veulent en apprendre davantage sur la vie de Pat Côté ou simplement de s'inspirer, lisez ce livre-là. Tout est possible, disponible, comme je vous disais, dans toutes les bonnes librairies. Et puis, aux éditions, en fait, Performance, ça va être vraiment un livre que je conseille durant ce confinement, encore plus que jamais. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour ce 7e épisode du Made in Québec podcast.